7h42 à Paris et Kinshasa, la RDC au cœur de votre émission d'appel sur l'actualité aujourd'hui. Juan Gomez attend vos questions, vos réactions sur le discours à la nation du président Félix Tshisekedi hier. C'était devant le Parlement réuni en congrès un an après sa réélection. La RDC est un immense chantier, un pays en mouvement qui se construit, un avenir radieux, a dit Félix Tshisekedi. Rendez-vous avec Juan Gomez à 9h10, heure de Paris. Avant ça, à suivre l'info sport et puis reportage au Maroc où la tradition du henné est très forte et sur place. On se réjouit bien évidemment de l'inscription récente de cette pratique sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et puis ensuite Afrique Économie sur RFI et notre choix musical, ce sera juste avant 9h. À la une de votre journal des sports, Antoine Grenier. Le football, bien sûr, et la Ligue des Champions, décidément compliqué pour Manchester City.
Les Citizens battus 2-0 par la Juventus de Turin. Troisième match sans victoire de suite pour Pep Guardiola et ses hommes. Seulement 22e du classement de cette phase de Ligue. Bien loin d'Arsenal, qui a dominé le Monaco de Lamine Camara 3-0 et pointe désormais à la troisième place du podium, pardon, derrière Barcelone, qui lui a dominé Dortmund 3-2 malgré un doublé du Guinéen Serou Guirassy.
Et après la Ligue des Champions, soirée de Ligue Europa ce jeudi.
Sixième journée également, deuxième depuis le succès de l'Athletic Bilbao hier sur Fenerbahçe. La Lazio de Rome affronte l'Ajax Amsterdam. L'Eintracht Francfort, troisième de cette phase de Ligue, se rend à Lyon. Le Slavia Prague, 26e avec 4 points au compteur, affronte Anderlecht. Et si on vous en parle, c'est parce qu'il y a un joueur à suivre, le latéral sénégalais Eladj Malik Diouf, 19 ans, 6 buts et 2 passes décisives en championnat. De quoi taper dans l'œil de club plus huppé, mais pas encore de quoi perturber le natif de Ziguinchor.
Voilà, j'ai vu des extraits en parlant de ça sur le record de transfert. Donc pour moi aussi, c'est bien pour le club aussi.
Je peux être le joueur qui a pu amener beaucoup d'argent pour le club. Donc un jour, ça se fera, le transfert. Je ne sais pas quand, je ne sais pas que si c'est demain, après-demain, dans 6 mois encore, après la saison. Donc ça en dépend. C'est juste que l'essentiel, c'est de me concentrer sur le football tchèque et que, voilà, on verra la suite. Ouais. En ce moment-là, c'est quelque chose de bien aussi d'entendre parler de ça, du record de transfert. Donc, voilà, ça te motive aussi.
Le sourire d'Eladj Malik Diouf avec Alexis Rosenzweig. Slavia Prague, Anderlecht, coup d'envoi 20h temps universel. Une journée qui débute à 17h45 TU avec notamment l'Union Saint-Gilloise face à l'OGC Nice ou Manchester United qui se mesure au Victoria Pilsen.
C'est désormais officiel. La FIFA a validé la candidature Maroc-Espagne-Portugal pour l'organisation de la Coupe du Monde de foot 2030.
L'instance tenait mercredi son congrès extraordinaire et les fédérations ont sans aucune surprise voté à l'unanimité pour le projet Yalla Vamos, et ce à la grande joie des Marocains, Mathias Reynal.
Le froid, une pluie fine, et pourtant au café, il y avait du monde hier soir pour regarder la Ligue des Champions. En attendant la Coupe du Monde de 2030, le Maroc est un pays de football. Driss, 58 ans.
C'est le premier sport populaire au Maroc. Même déjà mon petit-fils, il attend avec un grand espoir. Il a 10 ans, il compte combien j'aurai quand ce sera la Coupe du Monde. Il aura peut-être 17 ans.
Après l'exploit de la sélection, première équipe africaine a joué une demi-finale de Coupe du Monde. C'était au Qatar en 2022. Tous les espoirs sont désormais permis.
Avec les bons joueurs qui arrivent maintenant, les nouveaux jeunes, je pense qu'en 2030, on sera prêt pour gagner la Coupe du Monde.
Les attentes ne se focalisent pas sur le plan sportif. Othman, à 19 ans, il est étudiant.
Je trouve que c'est une bonne idée. On est en train d'investir beaucoup d'argent, mais on va profiter des retombées, avec le tourisme notamment. Ça va créer des emplois. En plus, le monde entier va découvrir la culture marocaine.
Le pays se prépare déjà, tous les grands stades du Maroc sont en chantier. Mathias Reynal, Casablanca. RFI.
Et la désignation de la candidature Maroc-Espagne-Portugal plus 3 matchs en Amérique du Sud fait les affaires de l'Arabie Saoudite à qui la FIFA a par ailleurs attribué le Mondial 2034.
Merci Antoine Grenier, on reste à Casablanca à présent. Et c'est une tradition qu'ont en commun de nombreuses régions du monde. Le Hainaut a rejoint depuis une semaine la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La candidature de ce rituel était portée par 16 pays arabes, du Moyen-Orient à l'Afrique du Nord, et parmi eux, le Maroc, justement, où la tradition est toujours très forte. Mathias Reynal s'en est rendu compte, Casablanca. Reportage.
En périphérie de Casablanca, dans un quartier populaire, une famille célèbre aujourd'hui la circoncision de Souleyman. Un an.
Là, je suis en train de préparer la table et l'endroit où on va faire le henné au petit. La circoncision a ses propres rituels.
Khamisa est ce qu'on appelle une nakrasha, littéralement une dessinatrice de henné.
Pour cette cérémonie, on fait simple. On met un peu de henné dans la paume de la main, on teint aussi les pieds. C'est la même chose qu'on faisait avant pour le marié. Le henné, ce n'est pas réservé aux femmes pour le mariage. Même les hommes peuvent en mettre. C'est un symbole de joie pour tout le monde.
Les chants, les youyou emplissent le salon. Souleyman est un peu impressionné. Zakaria, le père de l'enfant, est lui-même un adepte du henné. Il a demandé à Khamisa de lui faire deux gros points sur les mains. Il laisse la pâte sécher longtemps pour obtenir la couleur la plus intense possible.
Mon fils, le pauvre, a mis le henné. Du coup, je fais comme lui. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi, ça me plaît. On continue à suivre les traditions.
Au Maroc, le henné accompagne toutes les étapes importantes de la vie. Khamisa.
De la naissance à la mort, dans certaines régions, quand il y a un décès, trois jours après l'enterrement, chaque personne met un peu de henné pour chasser la tristesse et permettre à la vie de poursuivre son cours. Le henné est toujours avec nous.
Alors cette inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité est une excellente nouvelle.
Je suis très fière que cette pratique soit arrivée jusqu'à l'UNESCO. C'est quelque chose que j'espérais depuis si longtemps.
Le henné est réputé pour ses vertus médicinales, antiseptiques et apaisantes pour la peau. Ce serait aussi une plante un peu magique.
Et voilà, Souleyman s'est calmé. On lui a mis le henné, il a arrêté de pleurer.
Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
RFI à Casa, il est 8h49.
RFI à Cotonou, 90 FM.
Parlons d'un autre symbole à présent, cette fois pour le Bénin. Même s'il est ouvert depuis septembre, c'est aujourd'hui que l'hôtel 5 étoiles Sofitel est inauguré à Cotonou, la capitale économique du pays, signe d'une politique très volontariste en matière de tourisme. Au Bénin, l'établissement incarne aussi un renouveau de l'hôtellerie de luxe en Afrique de l'Ouest. C'est notre dossier Afrique Éco ce matin, il est signé Claire Fage.
C'est au groupe Accor qu'a été confiée l'exploitation du premier 5 étoiles de Cotonou. Pour Maude Bailly, directrice générale de Sofitel, la filiale du groupe hôtelier français, la destination béninoise s'imposait.
C'est vrai que Cotonou, en tant que capitale économique du Bénin, était extrêmement intéressante. C'est par ailleurs, au-delà du Bénin, un hub très dynamique pour l'Afrique de l'Ouest. Et par ailleurs, c'est une zone qui bénéficie d'une grande stabilité politique et d'un patrimoine culturel très riche qui m'a aussi convaincue pour cette destination.
Décoré d'œuvres d'art contemporaines béninoises, l'hôtel est désormais le plus grand centre de convention du pays. Il est le fruit, selon Pedro Novo, directeur général du fonds d'investissement dédié à l'hôtellerie, Dalia Hospitality, d'une stratégie volontariste des autorités béninoises.
L'État béninois, à travers un programme très engagé, souhaite faire du Bénin une destination de référence en matière de tourisme. Tourisme d'affaires, mais tourisme également de loisirs, avec des enseignes annoncées comme Banyan Tree ou Club Med.
Une dizaine de grands hôtels de luxe ont vu le jour cette année en Afrique, avec un effet de rattrapage au sud du Sahara et notamment en Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, Sofitel va rénover son établissement d'Abidjan, également doté depuis peu d'appart-hôtels. Une dynamique hôtelière qui profite des projets d'industrialisation et d'infrastructures structurants des États du Golfe de Guinée. Pedro Novo.
Il y a un investissement qui est réalisé aujourd'hui, un projet autoroutier majeur, côtier, qui va permettre de mieux exploiter le potentiel de cette côte, aussi en matière de destination touristique. D'ailleurs, la plupart des aéroports internationaux sont également positionnés pas très loin des côtes.
Destination encore marginale du tourisme d'affaires, le Bénin devra néanmoins s'imposer sur ce créneau. Le nouveau Sofitel de Cotonou marche pour l'instant aux deux tiers avec la clientèle nationale. Sourou Meachi est spécialiste de l'économie du tourisme en Afrique à l'Université française d'Angers.
Il faut que le Bénin trouve un positionnement qui permette de dire, tiens, voilà, on peut organiser notre événement au Bénin parce qu'on a d'autres atouts ou des atouts différents de ce qu'on peut retrouver au Maroc ou en Côte d'Ivoire ou au Nigeria.
Joint par RFI, le directeur général de Bénin Tourisme, Sindé Chekété, affiche l'ambition du pays d'organiser au deuxième semestre 2025 les conférences régionales et internationales qui permettront de remplir les nouveaux hôtels du pays.
Afrique Économie, Éclair Fage sur RFI, 8h52 à Cotonou et Paris, musique. Notre choix musical ce matin, bonjour Hugo Casalino.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Ce matin du nouvel album du groupe parisien Setenta.
Oui, Apollo Solar Drive, c'est le nouvel album du groupe actuel le plus emblématique du Latin Funk, Setenta. Mais qu'est-ce que le Latin Funk, me direz-vous alors ? J'ai eu l'occasion déjà cette année de vous parler du mambo, hein, années 50-60, joué par des orchestres et super à la mode dans le monde entier. Et bien, à New York, dans les quartiers du Bronx et de l'East Harlem, au même moment, les Portoricains vont le mélanger avec la musique soul R&B, celle de Otis Redding et Aretha Franklin. Le résultat de ce mélange, c'est la naissance du Boogaloo et du Latin Soul, comme ici avec Ray Barreto.
Alors, au même titre que la musique soul va se transformer en musique funk, le Latin Soul va faire de même.
Oui, exactement. Énormément de musiciens latinos, spécialistes de salsa notamment, vont se mettre à la Latin Funk, comme le pianiste Eddie Palmieri ou le chanteur Joe Batan, d'ailleurs, avec qui Setenta a déjà partagé la scène.
Alors, Hugo, dites-nous en plus sur ce groupe.
Oui, Setenta, c'est 7 garçons de Paris et sa banlieue. Ils en sont donc à leur 6e album. C'est un groupe où l'on retrouve les instruments qui font le son latino, hein, comme les congas et les timbales. Et j'ai une affection particulière pour le claviériste Florian Pellissier, que l'on retrouve aussi en solo et dans différents projets, toujours très groove, régulièrement en playlist RFI. Alors, une recommandation, surtout, ne les ratez pas sur scène.
En playlist RFI, vous en parliez, Hugo, le premier single de Setenta, Liberame.
Oui, Liberame, un single très très chaleureux dans le son, hein, car Setenta, c'est aussi une histoire de son parfait, je crois, pour bien commencer la journée, André. We'll be right back. Setenta et Liberame, bien sûr, vous les retrouvez, ainsi que le reste de la playlist RFI sur notre site et sur toutes les plateformes musicales.
Mais c'est vrai que c'est bien pour commencer la journée. Merci Hugo Casalino. C'était notre choix musical sur RFI, Setenta et son nouvel album. À bientôt, hein, RFI Matin, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt, Hugo, pardon. Je dis à bientôt comme ça, on comprend pas, voilà. À bientôt, Hugo. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et à bientôt merci à vous aussi qui nous écoutez, puisque RFI Matin, c'est terminé. Demain, rendez-vous à 5h, temps universel avec Julien Coquel-Rohem. Jean-Pierre Pellon était à la réalisation ce matin. Merci à lui. Dans 2 minutes, le journal suivi d'appels sur l'actualité. Bonjour Anne Gomez.
Bonjour Andréane, bonjour à tous et à tous.
Au programme aujourd'hui, la RDC et cette question, que retenez-vous du discours de Félix Tshisekedi ?
Oui, un discours sur l'état de la nation très attendu. Hier, devant le Parlement réuni en congrès, le président Tshisekedi a évoqué la situation socio-économique, la crise sécuritaire dans l'Est, le banditisme urbain avec en toile de fond le fameux phénomène des Koulounas. Le président a également parlé des embouteillages à Kinshasa et il a terminé son discours en appelant à réformer la Constitution. Vous a-t-il convaincu, Félix Tshisekedi ? A-t-il réussi son grand oral ? On en parle ce matin tous ensemble. Reste avec nous dans moins de 2 minutes, le journal.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Nathalie Amar.
L'une a laissé derrière elle sa Syrie natale, l'autre un Paris chargé de trop de souvenirs douloureux. Elle se retrouve par le plus grand des hasards dans un hameau isolé des Pyrénées. C'est l'histoire d'une renaissance que nous raconte Marie Pavlenko dans Traverser les montagnes et venir naître ici.
Écoutez de vive voix du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Ce jeudi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Gerbrandt.
En Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni poursuit sa ligne dure sur l'immigration. Mais les collectivités locales forment des tuteurs pour accompagner les migrants les plus jeunes, en application d'une loi de l'ancien gouvernement démocrate. Notre correspondante a suivi des citoyens bénévoles dans le centre du pays.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI. Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Pourquoi la Syrie occupe-t-elle autant de place sur l'antenne de RFI ? Traitons-nous cette offensive rebelle comme nous le faisons dans les pays africains ? L'actualité cette semaine vous fait réagir. Nous revenons sur l'importance stratégique des événements en cours au Moyen-Orient.
Écoutez « Pourquoi RFI dit ça ?» avec Juliette Rangeval. Tous les vendredis à 11h10 et 19h40 TU sur RFI.